It's Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an Peter Hausi.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons au Brésil, 6 mois, presque jour pour jour, avant des élections majeures. Si les Brésiliens votaient maintenant, ils voteraient Lula, mais les chiffres à 6 mois bougent et se resserrent. Qui sont les derniers soutiens de Bolsonaro? Comment le pays sort-il du Covid? Faut-il s'inquiéter de la démocratie dans ce pays? En cas d'échec de la droite, nous y venons tout de suite. Le bruit du monde est à Sarajevo, qui regarde avec un œil différent du nôtre, probablement, les images de tuerie, de viol en Ukraine. Ils regardent différemment parce que ça leur rappelle des souvenirs douloureux, alors que précisément en Bosnie-Herzégovine, l'État fédéral est fragile. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Lecornu a trouvé une coalition contre le président tunisien et les pleins pouvoirs qu'il s'arroge. Une ex-star du hip-hop accusée d'agression sexuelle, c'est en Grande-Bretagne. Et le maréchal Sissi, héros d'un feuilleton en Égypte. 18h50, le cinéma en VO dans la famille Panahi. Je voudrais le fils chez les Panahi en Iran. On est cinéaste de père en fils. Le film du fils, Corinne Pellissier l'a vu et a aimé. 18h55, le monde d'après de Claude Guibal et cette Transnistrie alors, peuplée de Russes en territoire moldave. C'est quoi exactement? Le monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabrice Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. On a coutume de dire, Christophe Ventura, que le carnaval de Rio est un moment très politique au Brésil, d'autant plus cette fois qu'il a eu lieu très en retard, c'était la semaine dernière, après 2 ans sans carnaval pour cause de Covid. Qu'est-ce qu'il a dit cette année selon vous? Est-ce qu'il dit vive le retour à la vie, vive le retour à la danse, ou est-ce qu'il dit vive le début d'une campagne électorale qui décidément est lancée par cet événement-là?
Ben, le carnaval à Rio au Brésil en général est un moment clé de l'année de la société brésilienne, et cette année ça a été la même chose, et c'est un peu les deux, je dirais, par rapport à votre question. Ça a été évidemment le côté festif, populaire, le fait de pouvoir se retrouver la vie un peu d'avant pour ceux qui peuvent la mener. Et puis c'est aussi le carnaval, et bien un moment très politique qui est aussi un moment où on continue de compter les victimes du Covid, qui sont à peu près la moitié de tout ce qu'il y a comme victimes en Amérique latine. Au Brésil, c'est à peu près 660 000 victimes. Et puis, on trouve avec ce carnaval, le début de l'année électorale, sans aucun doute, puisque on ne finit pas de compter les victimes, je disais, du Covid, pas seulement malheureusement les morts, mais aussi sur le plan économique et social, où des villes comme Rio ou d'autres, montrent un peu les blessures de ce Covid, avec la pauvreté, l'indigence qui est de retour au Brésil. On vient d'apprendre en même temps que le carnaval qu'il y avait désormais plus de 50% des Brésiliens qui étaient sous la ligne de pauvreté dans ce pays. Ça n'a fait qu'augmenter depuis plusieurs années, accéléré avec le Covid. Et ça fait maintenant, au moins 10 ans qu'il n'y a pas eu des chiffres pareils. Il y a 10 ans, ces chiffres étaient les pires depuis l'avant Lula. Donc ça nous renvoie à une vingtaine d'années en arrière.
Et en même temps, est-ce que ce Covid est toujours vraiment présent dans les esprits? On sait bien la catastrophe que ça a été. On a encore des images de Manaus en tête, enfin des épisodes qui ont été vraiment terribles dans ce pays. Et on se dit en même temps que les Brésiliens l'ont déjà mis quasiment derrière eux, en fait, et que c'est même pas d'ailleurs un enjeu du scrutin qui va venir. Alors je sais bien qu'on est à 6 mois, mais enfin tout de même, on a l'impression que cet enjeu-là, il est loin. Est-ce qu'on se trompe?
Je crois qu'au Brésil, c'est un petit peu comme partout. Les gens veulent laisser ça derrière eux parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant 2 ans, je dirais, de la dimension directement, liée au confinement, liée à tous ces conditions très difficiles pour tout le monde. Donc il y a évidemment cette envie de laisser tout ça derrière et puis de reprendre une vie, une sociabilité un peu normale. Mais en même temps, encore une fois, les balafres, si je puis dire, de cette épidémie, elles sont vraiment dans le quotidien et dans la période qui s'ouvre là-bas, parce que encore une fois, les images dont vous parliez, etc., on les voit même dans les beaux quartiers de Rio. Enfin, on voit un Brésil qu'on ne voyait plus depuis finalement la fin du XXe siècle, depuis les années de la grande crise économique des années 80-90. On est revenu à peu près là avec le Covid. Et ça, c'est quelque chose que tous les Brésiliens voient et expérimentent tous les jours.
Alors, si le scrutin avait lieu maintenant, et au regard évidemment de ce que vous venez de nous expliquer, Lula serait en tête. Mais enfin, les scores se sont resserrés ces dernières semaines, ces derniers jours. On est à 6 mois, je le disais. Qui sont les soutiens encore de Jair Bolsonaro? Comment il se découpe aujourd'hui, ce pays dont on dit qu'il n'a jamais été aussi polarisé?
Ben, je dirais que tout ce qui se fait autour de Jair Bolsonaro, c'est un petit peu toujours la même équation, mais dont les termes sont un petit peu mouvants et précaires. C'est finalement la recomposition de la droite, du centre-droit brésilien, dans une direction qui est de plus, toujours plus radicalisée, qu'incarne finalement le bolsonarisme. Alors c'est vrai que les écarts se sont resserrés avec Lula. Grosso modo, on a des enquêtes qui montrent que Lula, aujourd'hui, obtiendrait autour de 40% au premier tour, le 2 octobre, et Bolsonaro serait remonté un peu autour de 35-33, ça dépend les sondages. Et puis au deuxième tour, Lula l'emporterait toujours s'il y avait un deuxième tour le 30 octobre, puisqu'il faut plus de 50% des voix pour être élu dès le premier si on veut être au premier. Mais enfin, s'il y a un deuxième tour, il l'emporterait, mais pas avec 50%, aujourd'hui à 46-47% contre 38% à Bolsonaro. Ça, c'est les chiffres froids. Pourquoi Bolsonaro remonte? Bah, il y a une hypothèse. L'hypothèse, c'est que celle d'une troisième voie entre Lula et Bolsonaro a pris du plomb dans l'aile depuis ces dernières semaines. Puisque celui qui voulait l'incarner, l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique de Bolsonaro, Monsieur Sergio Moro, qui avait mis Lula en prison, on s'en souvient dans d'autres épisodes, eh bien, a finalement raccroché et décidé qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle. Donc, pour l'instant, l'idée d'une troisième voie qui aurait pu décrocher finalement une partie du centre droit de Bolsonaro et de la droite, eh bien, aujourd'hui, n'a plus de candidats en lice. Et du coup, ça peut expliquer une remontée des votes de droite ou d'une partie des votes de droite vers Bolsonaro. Et en plus de ça, Bolsonaro est en train de lancer une vraie campagne, j'ai envie de dire à la Lula 2002, si j'ose dire, c'est-à-dire une campagne qui est basée vraiment sur un axe social, un axe de lutte contre la pauvreté, alors que il sort de son mandat avec le bilan le plus effroyable en la matière, je l'ai dit au début de notre conversation, et aujourd'hui il ouvre le robinet à tous azimuts en promettant des allocations, un 13e mois pour les retraités, enfin toute une série de choses dont il espère récolter les fruits, en particulier auprès d'un électorat vraiment pauvre, appauvri, qui se situe dans le Nord-Est, et qui est justement l'électorat en général qui soutient le plus directement Lula. Donc il essaye de jouer ces deux choses-là, Bolsonaro. Ça lui réussit aujourd'hui, mais les 6 mois qui vont arriver vont être plein de rebondissements.
C'est ça effectivement le paradoxe et l'ironie. Je sais bien que les parallèles sont faciles, mais nous aussi on sort d'une période électorale. On voit bien que Bolsonaro est en train de se tourner vers l'argument du pouvoir d'achat, et aussi d'ailleurs même celui du prix de l'essence, puisque là aussi il y a des conséquences de toute façon sur l'essence et le pétrole de la guerre en Ukraine, même si elle est très très loin des Brésiliens. Mais ça joue énormément en ce moment, en tout cas dans le Brésil dont on parle aujourd'hui, 6 mois avant.
Absolument, parce que les premiers effets de cette guerre en Ukraine commencent à se faire sentir directement. C'est ce que vous dites, c'est l'inflation en général. Alors le pétrole, l'essence, etc., augmente en moyenne de 20%, ce qui est énorme à l'échelle brésilienne, surtout avec 50% de pauvres dans le pays. On parle quand même d'un pays de 214 millions d'habitants. Il faut imaginer ce que ça veut dire. On parle d'une des 10 puissances mondiales dont la moitié de la population est désormais sous la ligne de pauvreté. Mais c'est pas, si j'ai pu dire hélas, que le carburant qui a augmenté, c'est tout en fait au Brésil. L'inflation cumulée là, elle est à peu près à 12% sur les tomates, le raisin, enfin tout ce que vous pouvez acheter. C'est là aussi, malheureusement, les chiffres les pires depuis 30 ans au Brésil. Donc je vous parlais de la pauvreté, c'était les chiffres les pires depuis une vingtaine d'années. L'inflation, c'est les pires depuis 30 ans. Voilà un peu le bilan dans lequel cette campagne, sur lequel cette campagne s'ouvre.
Alors vous le disiez, Christophe Ventura, effectivement, on a un Bolsonaro qui fait une campagne à la Lula, ce sont vos termes, en allant vers les classes populaires. Et puis on a un Lula qui a décidé de s'en colistier très récemment, qui est l'ancien gouverneur de l'État de Sao Paulo, qui est plutôt son aile droite, qui est même un ancien adversaire. Et en tablant sur ce personnage, il cherche au contraire, lui, à rassurer, c'est ce qu'on imagine en tout cas, les milieux d'affaires, rassurer les marchés, etc. Donc on a l'impression qu'on est à une période là où chacun joue à front renversé, en fait.
Oui, absolument. Chacun joue à front renversé, un petit peu, j'ai envie de dire, avec un objectif qui pourrait être assez similaire finalement, qui est justement d'arriver à construire une alliance, ou en tout cas de capter une partie de l'électorat du centre, en fait, du centre droit brésilien, qui peut basculer dans la radicalisation avec Bolsonaro ou rester sur un programme plus social-libéral avec Lula. Et c'est un peu ça l'enjeu. Lula, quel est son problème? Son problème, lui, c'est qu'il part plutôt avec l'appui d'un vote qui est assez important, en particulier dans les classes populaires, etc. Mais justement, il faut qu'il puisse pour remporter le pouvoir et puis surtout pouvoir stabiliser le pouvoir qu'il aurait en tant que président. Il lui faut un congrès dans lequel il aura une majorité. Ça a toujours été le problème de Lula depuis sa première élection en 2002, c'est que son parti, le Parti des travailleurs de centre-gauche, ne peut pas avoir de majorité au congrès et est condamné à des alliances à chaque fois avec des formations plus modérées, même de centre-droit. Alors, ce que fait Lula, c'est qu'il essaye d'ores et déjà de construire ça sur la base de son programme, qui est un programme de redistribution sociale, d'État-providence, on va dire, d'État social, mais avec des marges de manœuvre très limitées dans un pays quand même très détérioré, je vous l'ai dit, sur le plan social. Les conditions dans lesquelles il va arriver s'il dirige seront pires que celles dans lesquelles il est arrivé en 2002. Il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre et donc il cherche effectivement, en tout cas, à s'assurer qu'il n'aura pas l'hostilité agressive des milieux d'affaires, des milieux financiers, en particulier de Sao Paulo et des marchés financiers internationaux qui pèsent toujours dans ces élections dans un pays comme le Brésil.
Donc on est dans une espèce de réformisme prudent, si je vous entends, pas une révolution à gauche effectivement, mais en même temps, sans trop de détails, on se dit qu'il s'est bien gardé quand même de donner, alors encore une fois, on est à 6 mois, encore une fois, il n'est pas officiellement candidat, d'ailleurs, s'il ne l'était pas, ce serait une sorte de cataclysme, mais enfin l'officialisation, on va dire, on l'attend. Donc on est dans une espèce de réformisme prudent. Qu'est-ce qu'on dit sur sa gauche-gauche à Lula en ce moment, sur cette campagne qui démarre sur ce ton-là?
Il y a des discussions, bien sûr. Certains sont insatisfaits, considèrent que c'est trop modéré pour le pays. En même temps, tout le monde a qu'une envie de ce côté-là de l'échiquier politique, c'est de mettre Bolsonaro dehors, parce que tout simplement l'idée de revenir à un Brésil présentable, que les gens, c'est en tout cas la gauche brésilienne n'est plus cette honte chevillée au corps lorsque le nom du pays est évoqué, de voir l'image du Brésil résumée à Bolsonaro. Il y a envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus normal, de décent. Et donc ça, c'est quelque chose qui quand même joue en faveur de la dynamique de Lula pour quelque chose qui soit peut-être plus modéré que ne furent ses programmes précédents aujourd'hui. Mais il s'agit finalement de reconstruire un Brésil démocratique et qui soit minimalement fonctionnel dans une situation vraiment où les grands indicateurs sociaux sont vraiment sérieusement détériorés. Et déjà, le programme de Lula, c'est d'essayer de reconstruire tout ce qui a été détruit sous les années de Bolsonaro sur le plan économique et sur le plan démocratique, avec une confiance et une stabilité institutionnelle minimale. Donc Lula, il propose ça au Brésil aujourd'hui. C'est un projet qui, quand même, derrière lui, permet une adhésion quand même assez large, y compris à sa gauche, même s'il y a des secteurs qui trouvent effectivement que c'est trop modéré.
Alors, sur le plan démocratique, justement, Christophe Ventura, un représentant de l'ONU qui est rentré au début de ce mois d'avril, dit textuellement « la violence politique est en train de détruire la démocratie brésilienne ». Est-ce que vous diriez qu'on en est là réellement, y a-t-il un vrai risque, notamment parce que c'est ce qu'on disait sur le modèle de Trump d'ailleurs, que Bolsonaro et ceux qu'ils soutiennent pourraient de toute façon et d'emblée contester le résultat de l'élection du mois d'octobre?
Je crois effectivement que ça fait sens, parce qu'il faut toujours rappeler que l'élection de Jair Bolsonaro est un chapitre supplémentaire d'une crise démocratique qui a commencé en 2016 au Brésil avec la destitution de Madame Dilma Rousseff, puis 2 ans d'un gouvernement qui n'a pas été élu au Brésil et qui a administré une cure de libéralisme très dur dans ce pays, et puis qui a permis finalement l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, on s'en souvient. Bolsonaro n'a pas solutionné la crise démocratique brésilienne, il en a développé un nouvel épisode, une nouvelle étape. Et donc effectivement, cette étape, c'est celle d'un dysfonctionnement, d'une tension permanente entre les institutions, l'exécutif, le législatif, la Cour suprême, etc. Et tout ça, Bolsonaro l'a attisé pendant 4 ans, quasiment parfois jusqu'au bord de la rupture, avec des épisodes, des rebonds, etc. Et effectivement, aujourd'hui, je crois que Bolsonaro, qui gouverne avec l'extrême droite brésilienne, avec une partie, une fraction militaire assez importante, etc., jouera jusqu'au bout, cette déstabilisation qu'il fera passer comme, disons, l'étendard d'une candidature anti-système contre l'establishment pour essayer de mobiliser son électorat de base. Et il y a des références, effectivement, et des comparaisons à faire avec le trumpisme. Donc la campagne électorale risque, de ce point de vue-là, d'être tout à fait, perturbée, peut-être par des formes de violence. C'est tout à fait imaginable.
Et un vrai risque, si on compare encore avec les États-Unis, mais peut-être d'être empire parce qu'il y a une histoire aussi brésilienne derrière. Est-ce qu'il y a un risque de l'armée, par exemple, qui pourrait intervenir? Je vous pose la question parce qu'on sait bien, vous l'avez évoqué, que Bolsonaro s'est attiré les faveurs d'une partie des militaires. Il y en a un certain nombre qui ont eu ou qui ont encore des fonctions gouvernementales. Est-ce qu'il peut y avoir un rôle de l'armée après cette élection? Est-ce que vous croyez à cette hypothèse-là?
Alors non, je ne crois pas à l'hypothèse, disons, d'un renversement de régime, d'un coup d'État militaire. Je ne pense pas à cela, parce qu'aujourd'hui, je crois que ça correspond pas du tout, au moment politique au Brésil. Et puis, d'une manière générale, aujourd'hui, un coup d'État qui serait fait par des militaires, il n'aurait aucun soutien, les militaires, ni à l'intérieur du pays et ni à l'extérieur, en particulier les États-Unis, qui jouent un rôle important, qui ont toujours joué un rôle important dans l'histoire des coups d'État en Amérique latine. Aujourd'hui, le gouvernement de Joe Biden ne se serait vraiment pas du tout,
Il y a d'autres chats à fouetter.
Oui, voilà, ça l'arrangerait vraiment pas. Et puis, c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent de toute façon. Donc, non, je crois pas ça. Simplement, les militaires peuvent un petit peu, ou certains d'entre eux, en tout cas, peuvent finalement essayer de, pas de manipuler, mais de profiter ou de voir, ou de laisser en tout cas Bolsonaro un petit peu agiter tout ça. Avec quel objectif réel? Pas tellement le coup d'État, mais plutôt de négocier avec le nouveau pouvoir, si c'est le retour de la gauche et celui de Lula, de négocier avec lui, en quelque sorte, que leurs privilèges ne soient pas remis en cause, parce qu'ils ont été très importants ces dernières années. Les militaires brésiliens administrent l'État, sont dans l'économie, les entreprises, etc. Et Lula, ça va être un de ses problèmes supplémentaires s'il est élu, c'est comment il va gérer cette situation avec des militaires qui ont vu un pouvoir, leur pouvoir renforcé dans la politique, les institutions et l'économie. Et ça, oui, peut-être que les militaires vont envoyer des signaux pour donner un petit peu le là sur et tester Lula par rapport à tout ça. C'est peut-être possible. Mais le coup d'État, non, j'y crois pas.
Une toute dernière chose, Christophe Ventura, dans l'hypothèse d'une victoire de Lula, encore une fois, il y a 6 mois avant cette élection-là, est-ce que vous diriez que le bolsonarisme s'est installé au Brésil et survit-il à Bolsonaro, en fait? Exactement la même question qu'on se pose, au fond, aux États-Unis vis-à-vis de Trump.
Eh bien, la réponse est la même, oui, tout simplement. Ce qu'incarne le bolsonarisme à l'instar du trumpisme aux États-Unis ne va pas disparaître. Les causes qui ont présidé à sa naissance, non seulement ont continué d'exister, mais se sont hélas exacerbées. Et donc, toutes les dynamiques de polarisation, de radicalisation, de fragmentation et de défiance, en quelque sorte, populaire par rapport à la chose politique, aux institutions et à la représentation politique, etc., eh bien, c'est toujours là. Sur une trame de fond sociale, encore une fois, qui est encore pire. Donc je pense que ce qu'est le bolsonarisme ne va pas disparaître, et Lula devra, s'il était élu encore une fois, aussi vivre avec un pays qui aura cette fracture-là, et tout ça continuera.
Il nous reste du temps pour en reparler. Vous reviendrez avec grand plaisir, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS avec nous dans Un jour dans le monde. Merci.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe à Sarajevo, c'est le bruit du monde. Sarajevo qui voit revenir avec les Russes des méthodes de guerre terribles déjà vues en Bosnie. Sarajevo qui sent aussi que l'État fédéral de Bosnie-Herzégovine ne tient qu'à un fil. Et pour aller jusqu'à 19h, Sébastien Logénis sous les radars.
Nous irons en Tunisie où les critiques contre le président Kais Saied ne cessent de monter.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier et le fils de son père, Pana Panahi, le fils du cinéaste iranien Jafar Panahi qui signe un film que Corinne Pellissier a adoré. Et puis le monde d'après, c'est vous, Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir à nous. Nous irons en Transnistrie, ce territoire où flottent la faucille et le marteau, coincé entre Moldavie et Ukraine, et où se joue peut-être ces jours-ci un nouvel acte de la guerre.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète refait un petit tour vers le Brésil avec grand plaisir, avec Caetano Veloso. Il a presque 80 ans, mais toujours vert.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá. Tem Duda Beach, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Tese da Coronel. Tem Irã e Maju, Simone e Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho pode dar, no Pelourinho pode dar, no Pelourinho pode dar.
Olho pro Cristo ali no Corcovado.
Le bruit du monde ce soir est à Sarajevo. Comme on l'imagine, la guerre en Ukraine a ravivé des souvenirs mal enfouis. C'était il y a 30 ans, presque jour pour jour, nettoyage ethnique, viol, exécution de masse, tout cela à Sarajevo, on l'a vécu, on l'a encore dans sa chair. Les exactions d'Ukraine et tout ce qu'elle ravive, arrive à un moment où l'État fédéral de Bosnie-Herzégovine est au bord de l'implosion. Les nouvelles rivalités Est-Ouest font craindre un retour des tensions locales. Et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
C'est la même chose que ce qui s'est passé en Bosnie. La même chose, les mêmes images, les mêmes réactions, tout. Comme c'était le cas ici à l'époque, les médias nous informent seulement quand les chars encerclent les villes. On sait bien qu'il y a déjà eu des massacres dans les villages des alentours.
Des villes encerclées et bombardées, des réfugiés par centaines de milliers et des civils victimes des pires atrocités. Dans les rues de Sarajevo, ils sont nombreux comme Mohamed à faire des parallèles avec les débuts de leur guerre. Il y a 30 ans, en avril 92, c'était en Bosnie-Herzégovine que la guerre faisait son retour en Europe. Romancière Alma Zornic était adolescente quand les forces serbes ont commencé à encercler et à pilonner la ville depuis les collines qui entourent Sarajevo.
Moi j'étais à Sarajevo pendant la guerre et c'était l'horreur. J'avais peut-être 16 ou 17 ans à l'époque. J'ai survécu à cette guerre et je comprends ce que vivent les Ukrainiens en ce moment, car ils subissent la même chose. J'ai beaucoup d'empathie pour le peuple ukrainien. Surtout maintenant, avec les enfants et tous les civils innocents, je peux imaginer les souffrances qu'ils doivent endurer. Moi, j'ai perdu ma mère et beaucoup de parents pendant notre guerre. Les exactions, les expulsions, les viols, je sais ce que la guerre veut dire.
Terrassé à genoux sur le macadam en plein cœur de Sarajevo, à 200 mètres du palais présidentiel. 3 morts en tout, selon un premier bilan, et 35 blessés, dont 5 amputés.
À Sarajevo, où les cicatrices de la guerre sont toujours visibles un peu partout, le martyr des habitants de Mariupol ou de Kharkiv rappelle les difficultés quotidiennes du siège.
Mais à Sarajevo, le calme est toujours trompeur. Aujourd'hui encore, la ville a été pilonnée à partir des collines d'alentour, occupée par les milices serbes.
Coupée du monde pendant presque 4 ans, les Sarajeviens ont dû apprendre la débrouille, sans eau, ni chauffage, ni électricité. Pour rompre l'isolement et se protéger des tirs serbes, des volontaires ont creusé un tunnel sous l'aéroport afin de relier la ville au territoire contrôlé par l'armée bosniaque. À l'époque, c'est sur ce terrain qu'habitaient Edi Skolar et sa famille.
Le tunnel a été utilisé pour transporter des armes à Sarajevo, mais aussi de la nourriture et du matériel médical, des médicaments. Il a aussi permis d'installer un pipeline pour acheminer de l'essence et d'établir une connexion téléphonique de haute tension. C'était la seule entrée ou sortie possible de Sarajevo. Imaginez une ville de plus de 300 000 habitants qui dépend d'un souterrain d'un mètre et demi de hauteur. Sans ce tunnel, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la ville comme celle dont le siège a été le plus long de l'histoire, mais de la ville tombée sous le contrôle de l'armée serbe.
Si l'émotion est aussi vive à Sarajevo, c'est que le conflit en Ukraine ravive aussi les craintes d'un retour des tensions entre ces différentes populations, bosniaques, musulmans, serbes orthodoxes et croates catholiques. Soutenu par Moscou, le dirigeant nationaliste serbe Milorad Dodik a lancé la sécession de la République serbe de Bosnie, l'une des deux entités du pays, et l'État fédéral semble aujourd'hui au bord de l'implosion. Les intérêts russes pour la région inquiètent par exemple Asim Asimovic. Ce retraité était réfugié en Allemagne pendant le siège de Sarajevo.
On a peur que ce qui se passe en Ukraine s'exporte ici en Bosnie, parce que chez nous, la situation est déjà très très inquiétante, elle est très incertaine. Ce qui est arrivé à Donetsk en Ukraine, nous l'avons ici avec la République serbe de Bosnie. Et puis il y a les positions de Vučić, le président serbe à Belgrade, qui suit le chemin tracé par Poutine. Mais le danger n'est pas seulement ici, en Bosnie, c'est aussi au Monténégro, au Kosovo et en Macédoine du Nord. Pour tous, ce conflit en Ukraine peut avoir de lourdes répercussions ici, chez nous, dans les Balkans.
Ces dernières semaines, l'ambassade de Russie à Sarajevo a mis en garde contre tout rapprochement vers l'OTAN de la Bosnie-Herzégovine. Par précaution face à ces nouvelles menaces pour la stabilité régionale, l'EUFOR, la mission militaire européenne dans le pays, a récemment augmenté ses effectifs afin de renforcer la sécurité de la Bosnie-Herzégovine.
Louis Seyer pour le reportage. Merci beaucoup, à très vite bien sûr. Le bruit du monde, la suite dans Un jour dans le monde, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Legénie. Et nous sommes en Tunisie, Sébastien, où les critiques contre le président Kais Saied prennent de l'ampleur.
Oui, c'est l'une des dernières manifestations qu'on entend derrière nous, en manifestation anti-Saied il y a 15 jours, un millier de militants du parti d'inspiration islamiste Ennahda, la bête noire du président tunisien, qui crie dans les rues de Tunis « Abat le coup d'État ». Mais ce sont loin d'être les seuls à se plaindre de la concentration des pouvoirs aux mains d'un seul homme. Hier, un vétéran de la politique tunisienne, un opposant historique à Ben Ali, la figure de gauche, Nejib Chebbi, a annoncé la création d'un front de salut national regroupant plusieurs partis, dont Ennahda, pour sauver, dit-il, le pays du coup de force institutionnel du président Kais Saied, qui, rappelons-le, s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis l'été dernier. Nejib Chebbi.
Nous ne sommes pas là pour servir le projet de quelque parti que ça soit, nous sommes là pour servir le projet de la Tunisie. Que veut la Tunisie ? Le retour à la constitution, le retour à la légalité constitutionnelle, et un plan de sauvetage de sa crise économique, financière et sociale.
Voilà, cette initiative n'en est qu'à son début. Les différentes tentatives de la société civile ou des politiques ont jusqu'ici tout échoué. Le président Saied, lui, n'a cessé de renforcer ses pouvoirs. Parlement suspendu, conseil de la magistrature remplacé par un organe dont il a nommé lui-même les membres. Et dernier coup de force en date, le chef de l'État tunisien, par décret, va pouvoir nommer le président de l'autorité électorale qui doit superviser les résultats d'un référendum essentiel l'été prochain sur les réformes institutionnelles. Même Washington s'est fendu aujourd'hui d'un communiqué inquiet de ses méthodes. La population, elle reste partagée. Une partie continue de faire confiance toutefois à Kais Saied pour sortir le pays de l'ornière, même au prix de ses méthodes très peu démocratiques.
Et direction la Grande-Bretagne avec une figure du rap éclaboussée par un scandale sexuel.
On parle ici du DJ Tim Westwood qui fait la pluie et le beau temps dans le milieu du rap depuis 40 ans au Royaume-Uni. Un fils d'archevêque devenu la voix du hip-hop dans les années 90, ancien présentateur star sur la BBC. Tim Westwood est aujourd'hui âgé de 64 ans. Il a encore sa propre télévision sur le net.
YouTube.com/TimWestwoodTV.
Voilà, le DJ est aujourd'hui au cœur d'un scandale qui fait la une de la presse britannique depuis hier suite aux révélations de la BBC et du Guardian. 7 femmes l'accusent d'abus sexuels, 3 d'entre elles décrivent des comportements prédateurs, inappropriés et 4 des agressions lors d'événements publics. Les faits ont eu lieu entre 1992 et 2017 quand les victimes présumées étaient des adolescentes ou de jeunes adultes. Tim Westwood nie fermement les accusations. Un documentaire de la BBC sera diffusé la semaine prochaine.
Et puis on termine en Égypte où le président Al-Sisi est le héros de la série télé la plus regardée.
Oui, la série s'appelle Al-Ikhtiar, le choix en arabe, et elle a la particularité d'avoir été produite en partenariat avec le ministère de la Défense égyptien. C'est la 3e saison et elle fait un carton pendant le Ramadan. Les 2 premières saisons étaient consacrées à des officiers de l'armée ou des services de renseignement, tout à la gloire des forces de l'ordre déterminées à lutter contre le terrorisme islamiste. Et cette fois-ci, c'est le président lui-même égyptien qui est au cœur de l'intrigue. On est en 2013. La série raconte le coup d'État de l'armée contre le président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans. On entend ici la bande-annonce de la série. Le président Al-Sisi, maréchal encore à l'époque, apparaît sous les traits d'un célèbre acteur de films d'action, sportif et musclé. Ce qui n'est pas la seule entorse avec la réalité. Toute la série est un hommage à cet homme présenté comme le défenseur de la patrie. Pas un mot évidemment sur les milliers de prisonniers politiques en Égypte, sur la mort suspecte de Mohamed Morsi derrière les barreaux. Une série qui sert évidemment le récit officiel. Même la presse pro-gouvernementale l'avoue avec cette production, dit un éditorialiste proche du pouvoir, l'État a réussi, je cite, à remodeler les consciences.
Allez, merci beaucoup Sébastien Legeni. À demain, vous partez avec une reprise de Bill Withers par Ina The Yard, c'est un collectif de chanteurs jamaïcains. Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone.
Ina The Yard et cette très jolie reprise de Bill Withers, Ain't No Sunshine, sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma et c'est Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
خونه که رفت. ماشین من باید بختم فروختیم خرج این بچه. فکر آینده هستی؟
Le cinéma en VO pour découvrir ce soir un jeune réalisateur, Corinne, qui n'aura pas de mal à se faire un prénom, Panahi, le fils de Jafar Panahi, figure incontournable du cinéma iranien. Il sort aujourd'hui son premier film, ça s'appelle Hit the Road et c'est très prometteur.
Oui, comme souvent dans le cinéma iranien, eh bien tout commence dans une voiture, une famille en route pour une destination inconnue, le père, la mère, le grand frère, le petit, le chien, dans une ambiance très joyeuse, des paysages sublimes, tout le monde chante dans la voiture fait des blagues, surtout la mère, mais derrière ce vernis très sympathique, de bonne humeur, eh bien on comprend que quelque chose ne va pas, car ce road trip, ce n'est pas juste une balade en famille. On se prépare dans l'habitacle à des adieux déchirants. L'atmosphère est tendue parce que l'heure est grave. Il se joue ici une question fondamentale pour beaucoup d'Iraniens, la question de l'exil. Faut-il rester, faut-il partir pour aller conquérir plus loin ces libertés que le régime islamique leur refuse? Le fils aîné dans le film va tenter de passer la frontière avec la Turquie. C'est un vrai sujet de tension entre les deux pays. Et Pana Panahi avoue avoir pris pour modèle plusieurs de ses amis qui ont choisi de quitter l'Iran.
Quand on crée forcément à partir de quelque chose, à partir de la matière que nous donne notre environnement immédiat, la société dans laquelle on vit. La société iranienne est profondément marquée par le politique, la dimension politique de notre vie jette son ombre très pesante sur tous les aspects de nos vies. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe en Iran de choisir de traiter d'un sujet très intime ou très fantaisiste ou très personnel quand le politique pèse à ce point sur nos vies quotidiennes. Et je pense que sur ce terreau commun et sur ces enjeux communs viennent se greffer d'autres histoires, d'autres aspects, d'autres styles, d'autres entrées dans le sujet qui se trouve par exemple pour moi être le thème du départ de l'exil, tout simplement parce que là aussi c'est directement venu de ce que j'observe autour de moi chez tous les Iraniens, notamment dans ma génération. Les jeunes Iraniens sont marqués par un désespoir vraiment très généralisé, c'est-à-dire il n'y a plus le moindre espoir de changement, d'une amélioration, de quelque chose qui vous fasse tenir. On est tous arrivés à une sorte d'impasse dans lequel il n'y a rien d'autre à envisager que de partir.
Alors Corinne, contrairement à son père, Pana Panahi n'a pas été empêché de tourner son film, il n'a pas eu à se cacher. Mais enfin, il a quand même du mérite parce qu'un père à la fois dissident et star international, c'est une sacrée figure tutélaire à enjamber.
Jafar Panahi fait partie aujourd'hui des réalisateurs les plus connus au monde, les plus primés aussi à Cannes, à Berlin. Persécuté dans son pays par des autorités qui l'empêchent depuis 10 ans de faire des films, de voyager, de s'exprimer dans les médias, il a même fait de la prison. Et bien malgré les épreuves, malgré tout ce que son fils Pana a vu ou vécu à ses côtés, il a gardé intact son envie de cinéma, digéré aussi tous ses classiques pour trouver sa voix, même s'il le sait, il lui faudra du temps pour définir son propre style, qu'on perçoit déjà rempli d'humour et de poésie.
Je n'ai pu faire de film qu'en me détachant de ces références sur lesquelles je ne voulais surtout pas m'appuyer. Il s'agissait pour moi de n'avoir pas de références à l'esprit et d'essayer de créer le plus librement, le plus spontanément, en ne posant pas, comme je disais, des questions d'extérieur et donc de placement dans un paysage cinématographique. Cela dit, je pense que n'importe quel cinéaste est forcément nourri par ce qui l'environne, par ce qui le constitue. Donc je pense que je ne peux qu'assumer ces influences-là. Bien sûr, j'ai été d'abord nourri par le cinéma iranien avant d'être de côtoyer les autres cinématographies du monde, que ce soit mon père, que ce soit Abbas Kiarostami. Ce sont bien sûr des films que j'ai vus et qui constituent ma culture cinématographique. Donc il serait vain de dire qu'ils ne m'ont pas influencé, mais ça n'a pas été une influence consciente ou un hommage, mais tout simplement mon alphabet à moi.
On aura hâte évidemment de découvrir le prochain film de Pana Panahi, La place de l'humain, les non-dits, tout le jeu sur les contrastes qui donnent à ce premier film It's the Road d'une dimension très universelle. C'est peut-être ça finalement à la touche Pana Panahi. En tout cas, on adore.
Et merci de le partager avec nous Corinne. Le film donc s'appelle It's the Road, Pana Panahi au cinéma ce mercredi et c'est un film France Inter.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal. Claude, ce soir, on se penche sur la Transnistrie, ce territoire séparatiste pro-russe en terre moldave, à la frontière de l'Ukraine, et où on craint l'apparition d'un nouveau front.
Oui, Fabienne, ce monde d'après, on pourrait dire qu'il se passe dans le monde d'avant. Avouons-le, pour beaucoup d'entre nous, avant ces explosions qui s'y multiplient depuis deux jours, la Transnistrie évoquait un territoire que l'on croyait tiré d'un album de Tintin sans qu'on sache exactement bien où il se trouve et ce qui s'y passe. Alors, premier réflexe, eh bien, on prend une carte. La Transnistrie, c'est donc cette langue de terre entre la Moldavie à l'ouest et l'Ukraine à l'est, délimitée côté moldave par un fleuve, le Dniestr, qui lui donne son nom, 200 km de long, 20 km de large, 500 000 d'habitants. Ensuite, on cherche sur une encyclopédie et on apprend qu'en 91, au moment du démantèlement de l'URSS, ce territoire très russophone, inquiet de voir la Moldavie quitter le giron soviétique, autoproclame son indépendance. S'ensuit une guerre qui fait 2 à 3000 morts en un an et depuis, 1500 soldats russes y sont stationnés. Officiellement, c'est une force de maintien de la paix qui veille sur des stocks d'armes qui datent de l'époque soviétique, un conflit gelé, presque oublié et un territoire qui s'est comme figé dans le temps.
Donc c'est un dernier vestige du rideau de fer en quelque sorte.
Vous ne croyez pas si bien dire, hein, parce que un voyage en Transnistrie, si on en croit les récits de ceux qui y sont allés avant la guerre en Ukraine, et franchement ils ne sont pas très nombreux, eh bien c'est un peu goût by Lénine, hein, si vous voyez le film, tous racontent la même chose. Des laissés-passer distribués au compte-gouttes, avec des chars russes à la frontière. Vous jetez un coup d'œil sur Google, vous verrez les photos de ces villes aux couleurs passées, où des statues de Lénine côtoient des drapeaux ornés de la faucille et du marteau. On y paie en monnaie locale le rouble de Transnistrie. Un tiers de la population a la nationalité russe. C'est le pays le plus pauvre d'Europe, mais le gaz distribué par Gazprom est gratuit. L'économie locale, largement alimentée par des trafics en tout genre, est sous perfusion directe de Moscou. Moscou qui ne reconnaît pas officiellement l'indépendance de cet État d'ailleurs, mais qui y règne en maître grâce à des autorités locales, un président, un premier ministre, totalement aligné sur la Russie. Bref, c'est un peu la Corée du Nord en Europe, si vous voulez, coincée entre Ukraine et Moldavie.
Et la Moldavie, Claude, on m'a le rappelé, qui a fait début mars, c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine, une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne.
Vous imaginez bien à ce moment-là la fureur de Moscou, Fabienne, car jusqu'à l'an dernier, la Moldavie faisait partie de la zone d'influence traditionnelle russe, hein, avec ses vieux caciques pro-russes au pouvoir. Et puis il y a eu des élections qui ont été remportées par le clan pro-européen et donc l'élection de cette présidente, Maya Sandu. Et c'est à la suite de cette élection l'an dernier que la Russie a commencé sa guerre du gaz dans ce pays qui était entièrement dépendant du gaz russe, la Moldavie, un chantage énergétique en refusant de renégocier les contrats, en coupant les robinets, ce qui a obligé la Moldavie à faire appel à la solidarité de ses voisins européens. Or, cet épisode était, on le voit bien aujourd'hui, une des prémices de la guerre qui ravage aujourd'hui l'Ukraine.
Mais la Russie, Claude, que cherche-t-elle vraiment en Transnistrie puisqu'elle y est déjà, en fait?
Et ça, c'est difficile à dire. On a beaucoup parlé de la stratégie militaire russe en Ukraine au début de la guerre, hein, dans cette émission, avec la volonté d'établir un arc le long de la mer Noire, allant du Donbass à la Transnistrie, via Odessa, pour établir une continuité territoriale avec la Russie. Mais ça, c'était avant, c'était il y a des semaines. Et depuis, la situation militaire s'est détériorée pour l'armée russe. Mais il est possible qu'à agiter le spectre d'une guerre en Transnistrie soit une façon pour Moscou de faire monter la terreur avant d'éventuelles négociations. Mais les 1500 soldats russes dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont stationnés en Moldavie, eh bien, ils ne feraient probablement pas le poids, hein, coincés qu'ils sont entre les forces de l'OTAN et les forces ukrainiennes. L'Union européenne, les États-Unis, l'Ukraine, ça ils le savent. Mais ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, eh bien ça, lui seul le sait.
Merci beaucoup, Le Monde d'après de Claude Guibal. À demain, bien sûr, le 18-20. Ça continue sur France Inter avec le journal de Claire Chaudière et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, surtout ne changez rien.